VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 29 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Seroudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Les présidents français et angolais ont réaffirmé hier leur soutien aux accords sur la tenue d'élections en République démocratique du Congo le 23 décembre prochain.
En cas de victoire de sa coalition à ces élections, Joseph Kabila restera le chef de la majorité présidentielle, signale l'emmerdement des porte-paroles du gouvernement congolais.
Au Tchad, grève des magistrats pour protester contre l'agression d'un avocat par les forces de l'ordre.
Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré officiellement sa candidature à la présidentielle de 2018.
Ouverture ce mardi à Paris d'une conférence sur la Libye en présence des quatre principaux responsables de ce pays plongé dans le chaos.
Rencontre entre le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe avant le sommet prévu entre M. Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les présidents français et angolais ont tous deux réaffirmé leur soutien aux accords qui prévoient la tenue d'élections en RDC le 23 décembre. Emmanuel Macron et João Lourenço excluent la participation de l'actuel président Joseph Kabila. Le point avec Eric Manirakidza.
Le président français a déclaré que Paris appuiera les initiatives des pays de la région et de l'Union africaine pour faire appliquer les accords de la Saint-Sylvestre 2017. Nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés, a souligné Emmanuel Macron. Il a souhaité que les réunions des prochaines semaines permettent d'aboutir à un résultat clair. De son côté, le président angolais a indiqué que les dernières discussions avec le président rwandais Paul Kagame ne sont pas un secret et a rappelé que le président Kabila doit respecter les accords. D'après João Lourenço, ces accords ont reçu la bénédiction de l'Église, donc tout ce qui est béni doit être respecté. Il a cependant affirmé ne pas vouloir s'ingérer dans les affaires internes de la RDC, précisant qu'il s'agit d'un conseil et pas une obligation. Hier, Kinshasa a publiquement demandé des explications au président français. Le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a dénoncé les propos subliminaux et pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai par Emmanuel Macron au cours de sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame.
Monsieur Mende a par ailleurs déclaré que Monsieur Kabila restera le chef de la majorité présidentielle en cas de victoire de sa coalition politique aux élections du 23 décembre. Pendant ce temps, une partie de l'opposition accuse le président congolais de vouloir rester au pouvoir. Il est le chef de la majorité présidentielle. Lorsque nous irons aux élections, il sera le chef de la majorité présidentielle. Et puisque nous avons l'intention de gagner après les élections, Joseph Kabila sera le chef de la majorité présidentielle, a déclaré Lambert Mende en conférence de presse. Il n'y a rien d'anticonstitutionnel à cela, a-t-il souligné.
Au Tchad, les magistrats ont entamé hier une grève de 3 jours pour protester contre l'agression la semaine dernière à Doba, dans le sud, d'un avocat par les forces de l'ordre. C'est ce qu'a dit à l'AFP cet avocat, maître Doumra Manassé, qui s'est déplacé de Doba à N'Djamena. Le ministère de la Justice a envoyé sur place une équipe d'instruction et a demandé que l'on attende ses conclusions. Le Tchad a connu lundi un mouvement de protestation d'ampleur avec une grève de la fonction publique massivement suivie, bloquant hôpitaux, écoles et ministères, les fonctionnaires réclamant le paiement de leurs primes et indemnités.
Au Mali, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a déclaré officiellement sa candidature à la présidentielle de 2018, dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet prochain. Les partisans d'Ibeka étaient tous dans l'attente de cette annonce afin de commencer leurs activités de soutien. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est sa résidence de Sirinikuru qu'il a choisi pour déclarer sa candidature à la prochaine présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Je ressens simplement et seulement le profond désir de poursuivre mon devoir, qui est de servir au mieux le Mali, en ces heures où les incertitudes ne sont pas encore totalement levées. Mes chers compatriotes, voilà la raison pour laquelle je me porte candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018.
En officialisant sa candidature, Ibeka sait qu'il sera soutenu par 68 formations politiques, même si la Kadima, deuxième partie de cette coalition, est divisée.
Lorsque je serai élu, si Allah subhanahu wa ta'ala et vous le vouliez et le favorisiez, je me donnerai comme priorité de consolider les acquis, d'améliorer la prise en charge des urgences et de restituer entièrement à notre pays sa grandeur de nation debout. En tête des priorités, je placerai la sécurisation de notre territoire national.
Ibeka prouve que son bilan est positif. C'est pour cela qu'il n'hésite pas à briguer un second mandat.
Pour ma part, je fais confiance au peuple malien pour trancher sur la pertinence de ce qu'il sera proposé lors de la future campagne électorale. Chers compatriotes, le mandat arrive à son terme. La mission a été accomplie. Nous venons en confiance, encore une fois, solliciter qu'il vous plaise la reconduire.
Cette année, les jeux sont ouverts par rapport à la présidentielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un migrant malien sans papier, élevé au rang de héros en France, après avoir sauvé un enfant, sera régularisé et naturalisé français. C'est ce que lui a annoncé hier le président Emmanuel Macron en le recevant à l'Élysée. Pour leur part, plusieurs associations françaises d'aide aux migrants fustigent une récupération, masquant mal la dureté de la politique migratoire du président Macron.
Toujours à Paris, ouverture ce mardi d'une conférence sur la Libye. Quatre principaux responsables libyens doivent se rencontrer dans la capitale française pour tenter de mettre un terme à la crise qui frappe le pays. Abdourahmane Dia.
Le premier ministre du gouvernement d'Union, Faïz al-Sarraj, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah Issa, et celui du Conseil d'État, Khaled al-Mishri, devraient prendre part à cette rencontre sous l'égide du gouvernement français. Mais pour le centre d'analyse International Crisis Group, cette conférence risque d'être contre-productive en l'absence d'un consensus plus large incluant d'autres acteurs politiques et militaires de ce pays. Le centre de réflexion souligne l'absence de la ville de Misrata qui compte les groupes armés les plus puissants et les hommes politiques les plus influents dans l'ouest libyen. Un certain nombre de Libyens ont été invités à participer en marge de la réunion mais ne seront pas invités à signer l'accord, ajoute International Crisis Group. Cette approche n'a pas plu notamment à la délégation de la ville de Misrata qui a refusé de se rendre à Paris. La France tente d'obtenir notamment un engagement collectif pour la tenue d'élections présidentielles et parlementaires d'ici la fin de l'année.
L'Union européenne enverra pour la première fois depuis 2002 des observateurs électoraux au Zimbabwe en vue des scrutins présidentiels et législatifs prévus pour le mois de juillet. C'est ce qui ressort de l'accord conclu lundi entre Bruxelles et Harare. Irénée Herman Umbo.
Le nouveau régime zimbabwéen tente de renouer avec l'Occident en invitant différents acteurs internationaux à observer la démocratie en action. La nouvelle administration témoigne de son désir de transparence dans le processus électoral, a fait savoir le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères Sibusiso Muyo. Les termes de l'accord conclu entre Harare et Bruxelles portent essentiellement sur les droits et obligations de la mission de l'Union européenne au Zimbabwe lors des scrutins. Le nouveau chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, candidat de la ZANU-PF à la présidence, assure que les élections seront transparentes et pacifiques. Les critiques de M. Mnangagwa doutent cependant de son engagement, rappelant qu'il a été l'un des exécuteurs de la répression ordonnée par Robert Mugabe. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Zimbabwe, Philippe Vandane, salue quant à lui l'engagement du gouvernement zimbabwéen d'organiser des élections pacifiques, crédibles, inclusives et transparentes. La dernière mission électorale de l'Union européenne au Zimbabwe remonte à 2002. Son chef avait été expulsé avant la présidentielle. Dans la foulée, Bruxelles avait adopté des sanctions contre Robert Mugabe et certains de ses proches, accusant le régime d'atteinte aux droits humains.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe comptent se rencontrer avant le sommet prévu entre M. Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. C'est ce qu'a annoncé hier M. Abe après un entretien téléphonique avec M. Trump. Ils ont affirmé à cette occasion leur impératif partagé d'obtenir le démantèlement complet et permanent des programmes nord-coréens d'armement nucléaire, chimique et biologique, ainsi que de missiles balistiques, selon la Maison-Blanche dans un communiqué. Des officiels américains était hier en Corée du Nord et à Singapour préparant le sommet en question. Il était prévu initialement le 12 juin à Singapour et pourrait toujours se tenir à cette date selon M. Trump qui avait annoncé son annulation la semaine dernière.
L'Italie est dans l'attente ce mardi du gouvernement que doit proposer Carlo Cottarelli, incarnation de l'austérité budgétaire. De l'avis des observateurs, ce gouvernement a peu de chances d'obtenir la confiance d'un Parlement dominé par les populistes eurosceptiques. Les analystes s'attendent à de nouvelles élections à l'automne ou au plus tard, début 2019.
Au Yémen, les forces gouvernementales ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres du port stratégique de Hodeida tenu par les rebelles Houthis, a annoncé hier soir la coalition anti-insurgée sous commandement saoudien. La coalition estime que ce port est un point de départ pour des attaques rebelles contre des navires en mer Rouge. L'ONU, quant à elle, craint de voir cette opération militaire affecter l'acheminement de l'aide humanitaire qui arrive principalement par le port de Hodeida.
Fin de ce journal sur VOA. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le groupe pétrolier et gazier Total et ses partenaires vont investir en Angola pour 1,2 milliard de dollars. Il s'agit du développement du projet Zinia 2 en eau profonde. La capacité de production sera de 40 000 barils par jour. Total et son Angol doivent par ailleurs former une co-entreprise pour développer un réseau de stations-service dans le pays. Le déficit de financement des infrastructures routières au Libéria se chiffre à 2,6 milliards de dollars. Le pays reçoit une contribution annuelle des partenaires internationaux de 129 millions de dollars. Le ministre des Travaux publics a dit que si le gouvernement affecte 20 millions de dollars à chaque exercice budgétaire pour les routes, il faudra plus de 150 ans pour pouvoir bitumer tout le réseau routier du pays. 90% des routes non revêtues sont situées dans les zones rurales où vit la majorité de la population. Les États-Unis veulent mettre fin aux différends concernant certaines aides européennes à des programmes aéronautiques d'Airbus. Washington estime que les subventions existantes sont incompatibles avec les règles de l'OMC. Airbus et Boeing s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'OMC à travers leurs gouvernements respectifs qui ont déposé deux plaintes simultanées pour dénoncer les aides publiques accordées à chacun d'entre eux. Washington souhaite négocier avec l'Union européenne pour parvenir à un accord.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Préparation du Mondial 2018, Salah est en Espagne pour se soigner.
L'attaquant égyptien de Liverpool s'est rendu en Espagne pour soigner sa blessure à l'épaule gauche, survenue lors de la finale de la Ligue des Champions, d'après la Fédération égyptienne de football. Toute l'Égypte a retenu son souffle quant à un possible forfait de son attaquant vedette pour le Mondial 2018. Mais le joueur a tenu à rassurer ses fans sur Twitter, se disant confiant malgré les pronostics. Les médias égyptiens ont fait état d'une période d'indisponibilité de 3 semaines.
Danny Jordan, réélu président de la Fédération sud-africaine de football.
L'ancien maire de Port-Elisabeth a été réélu à la tête de l'instance pour un second mandat de 4 ans. À la dernière minute, son challenger principal, Adile Assé Nkobo, a indiqué avoir reçu des menaces de la part de plusieurs délégués et s'est donc retiré. Seul candidat, Jordan a récolté 234 voix sur les 246. Membre du comité exécutif de la CAF, Danny Jordan fut l'organisateur en chef du Mondial Afrique du Sud 2010.
Ruez sur les billets pour voir Messi à Jérusalem.
Et oui, les 20 000 billets pour la rencontre amicale entre les équipes israéliennes et argentines avec la participation de Lionel Messi, prévue le 9 juin à Jérusalem, se sont arrachés en 20 minutes. Près de 100 000 personnes ont tenté d'obtenir un billet sur le site de la société de vente. Le prix des places variait entre 44 shekels, environ 10 euros, et 825 shekels, environ 198 euros, dans l'espace VIP. Sur les réseaux sociaux, les ventes de billets au noir atteignaient déjà 4 500 shekels, environ 1 000 euros.
Du tennis, Serena et Sharapova de retour à Roland-Garros.
Serena Williams et Maria Sharapova effectuent leur retour ce mardi à Roland-Garros. Forfait l'an passé pour cause de maternité, l'ancienne numéro 1 mondiale, Serena Williams, 36 ans, a bénéficié d'un tirage clément, se dresse sur sa route la Tchèque Kristina Pliskova, absente en 2016 à cause d'une suspension pour dopage, puis blessée en 2017, la double championne Sharapova a elle aussi été plutôt bien lotie avec comme adversaire une Néerlandaise issue des qualifications, la 133e mondiale. mondial, Richel Hogenkamp. NBA pour terminer avec vous Idrissa, le résultat du match numéro 7 entre Golden State et Houston en finale de la conférence Ouest.
Ce sera encore Golden State et Cleveland. Le champion en titre Golden State s'est qualifié pour la finale NBA en éliminant Houston au terme du match numéro 7 disputé à Houston 101-92. Les Warriors remportent la série 4 victoires à 3 et disputeront donc à partir de jeudi leur quatrième finale d'affilée face à Cleveland, tombeur dimanche de Boston.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Nigeria célèbre ce mardi la journée nationale de la démocratie. Cela fait 3 ans que le président Muhammadu Buhari dirige le pays le plus peuplé d'Afrique, après avoir battu aux urnes son prédécesseur Goodluck Jonathan. L'ancien général, âgé de 75 ans, avait bénéficié de la confiance des Nigérians pour sa détermination à lutter contre la corruption, mais surtout à mettre fin à la sanglante insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, revient sur les 3 années de l'administration Buhari.
Il y a 3 ans, le Nigeria vivait la première alternance démocratique de son histoire. Le général Muhammadu Buhari gagnait la présidentielle, une victoire que son prédécesseur, Goodluck Jonathan, avait reconnue. 3 années plus tard, où en est le Nigeria et que pensent les Nigériens de l'administration de Buhari qui avait promis des performances? Judith Edward, activiste et assistante dans une ONG locale de développement.
Je ne dirais pas particulièrement que je suis satisfaite. Je sais que beaucoup reste à faire. Le genre de changement que nous voulons exige qu'on fournisse assez d'efforts parce que les dommages causés ne se sont pas produits en une seule année. Ça a pris plusieurs années pour que ces dommages se produisent. Donc, pour pouvoir réduire les débris de ces dommages, nous devons fournir plus d'efforts.
Les 2 principaux thèmes de la campagne électorale de 2014 et 2015 du président nigérian étaient la lutte contre la corruption et la mise hors d'état de nuire des groupes terroristes Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des succès divers ont été enregistrés, certes, lors des 3 dernières années, mais pour l'heure, beaucoup reste à faire. Réaction d'Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
On the fight against corruption, obviously there have been some...
Sur la lutte contre la corruption, il y a eu vraiment quelques impacts, particulièrement des fonds détournés qui ont été recouvrés. Mais aussi cette lutte contre la corruption est vivement critiquée par beaucoup de personnes, surtout avec la perception que la lutte est sélective.
En l'absence d'une réforme profonde du système judiciaire, la Commission nigérienne contre les délits économiques et financiers, IFCC, a bien traqué quelques pilleurs des précédents régimes. Mais elle s'est le plus souvent bornée à faire rembourser une partie des sommes détournées. Très peu de peines de prison ont été prononcées et encore moins ont été appliquées. La jeunesse de ce grand pays de l'Afrique de l'Ouest manque de boulot. Une jeunesse qui veut désormais prendre les rênes du pouvoir. Hamza Laval est activiste et un des combattants pour l'inclusion des jeunes dans la gestion des affaires de l'État nigérian.
Je pense que son échec est de ne pas impliquer beaucoup de jeunes dans son cabinet. Aujourd'hui, si vous regardez des gens autour du président Muhammadu Buhari, que ce soit dans l'exécutif et ceux qu'il a nommés au sein du conseil d'administration et d'autres chefs des agences de l'État, vous n'avez pas de jeunes, vous trouvez des vieux et bien sûr, vous savez que les vieux rêvent seulement et si vous rêvez, vous devez dormir pour pouvoir rêver. Donc ça dort, ça rêve à la fois, mais les jeunes, eux, ont une vision.
Concernant la lutte contre Boko Haram, le bilan de Muhammadu Buhari est a priori plus positif. Le groupe ne contrôle plus de territoire. Cependant, force est de constater que les attentats n'ont pas cessé, ni les kidnappings, comme celui d'une centaine de lycéennes en février dernier à Dapchi, dans l'État de Yobe. 4 ans après celui de Chibok, lors duquel 276 filles avaient été faites prisonnières. Témoignage.
Je peux dire qu'il travaille bien parce que notre travail, c'est de prier pour lui et pour la nation pour qu'il puisse continuer à faire plus et que Dieu le garde en
vie.
En ce qui concerne cette administration, ils ont pu affronter la question de l'insécurité, même s'ils ont encore beaucoup de travail à faire, contrairement à l'administration précédente.
Malgré ces bilans, plutôt en demi-teinte, auquel Sahel, on pourrait ajouter la crise entre éleveurs et agriculteurs, Muhammadu Buhari va se présenter à la présidentielle de 2019. Selon un sondage du Centre pour la démocratie et le développement, 40% de la population apprécie le travail de Buhari et 60% des Nigériens ne sont pas satisfaits du régime du président nigérien. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, pour la plupart des parents d'enfants autistes, trouver les moyens financiers pour assurer les soins de santé, l'éducation de leurs enfants relève d'une véritable gageure. Pour espérer s'en sortir, ceux-ci ont créé à Douala, la capitale économique du Cameroun, l'association des parents et personnes vivant avec le handicap. De Yaoundé, le correspondant de VO Afrique, Emmanuel Juntap.
Pratiquer l'agriculture en cultivant du manioc, l'activité réunit ce jour une dizaine de parents d'enfants autistes. Nous sommes à Douala, au lieu d'IPK24. Sur un hectare, des hommes et femmes s'échinent et enfoncent les boutures de manioc dans le sol. Tous ont un dénominateur commun, un enfant autiste, et cela a bouleversé leur vie. Nadège et Nadine, respectivement mères des enfants autistes de 12 et 13 ans.
Il faut avouer, c'est pas facile. Notre façon de manger a changé à la maison. C'est difficile pour nous, des maladies autres que leur propre maladie. Seulement acheter les comprimés de ces enfants, les consultations, payer des médicaments de nos enfants, si ça ne coûte pas cher.
Après 2 ans d'existence de leur association, les parents d'enfants autistes ont créé un champ agricole, objet de tant d'espoir. Hortense Ngambo, présidente de l'association des parents et personnes vivant avec le handicap.
Ça, c'est un espace qu'on nous a donné pour pratiquer la culture. Nous sommes en train de travailler comme ça pour mettre quelque chose sur pied. Les revenus de ça, ça peut nous aider pour les médicaments des enfants, parce qu'il y a des enfants qui vivent avec des convulsions toute la vie, alors que si nous, peut-être, on avait notre espace pour travailler, notre terrain même, on pouvait faire mieux que ça.
Au Cameroun, la socialisation des enfants autistes demeure pour leurs parents un gros défi à relever au quotidien. Katmir Kromedjo et Karine et Bengo, parents d'enfants autistes âgés de 7 ans et 11 ans, avouent à VOA Afrique que leur progéniture vive l'exclusion sociale.
Moi, je l'ai inscrit à l'école à 4 ans. Nous avions convenu avec les dirigeants qu'on devait l'observer aussi au moins 3 ans. Au terme de la première année, on leur envoie disant que pendant que d'autres enfants disent « Ah, elle est incapable de pouvoir le dire », c'était pour moi une trahison.
Ce n'est pas toujours facile d'accepter un enfant autiste. On se dit que ce sont des enfants différents, ils ne sont pas des enfants comme les autres, ils sont un peu marginalisés.
Sur le plan éducatif, la ville de Douala n'a qu'un seul centre spécialisé pour les enfants autistes. Il faut débourser 450 000 francs CFA pour une année scolaire. À Yaoundé, grâce à l'éducation inclusive, l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs accueille désormais quelques enfants autistes. Mais rien n'est facile ici pour ses élèves et leurs enseignants. Béatrice Nkousse, directrice de l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs.
On n'a pas de spécialiste. On n'a même pas le cadre approprié, on n'a pas de matériel. Si on obtient tout ça, on pourra mieux les encadrer pour que eux aussi, ces enfants peuvent faire beaucoup de choses. Cependant, il y a quand même eu des séminaires où on leur a appris à pouvoir encadrer des enfants ayant d'autres problèmes que la déficience auditive.
Plus de 1000 enfants sont victimes de l'autisme au Cameroun et depuis 2015, le pays forme des éducateurs pour enfants autistes. Yaoundé, Emmanuel Juntap. VOA Afrique.
Tenue à Lomé au Togo d'une réunion d'experts et de ministres en charge du transport sur l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique, le MUTA, notamment sur l'harmonisation des législations et la révision des accords bilatéraux pour soutenir ce projet dont le premier objectif est l'intégration africaine. Découvrons ce marché unique du transport aérien africain à travers ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Nous étions en 1999 où les chefs d'État africains ont décidé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire de mettre en place un marché unique du transport aérien. 19 ans plus tard, les lignes n'ont véritablement pas bougé. En marge du 30e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier dernier, les dirigeants africains ont jugé nécessaire de remettre en jeu l'initiative, d'où le lancement du marché unique du transport aérien en Afrique, MUTA. Le MUTA se veut un outil d'intégration, indique Nguedo, expert principal en transport aérien de la commission de l'UEA.
The Single African Air Transport Market, as you know, is one of the 12 agenda.
Le marché unique du transport aérien en Afrique est l'un des 12 objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La commission de l'UEA veut accélérer l'intégration africaine à travers des projets clés qu'elle met en œuvre sur le continent, dont le MUTA. Actuellement, 26 États africains ont rejoint le MUTA et sont aptes à ouvrir mutuellement leur marché. La réunion de l'OMEA essaie de briser les barrières qui existent entre ces 26 États en procédant à une harmonisation des tests et à une révision des accords bilatéraux dans le secteur aérien. Nous voulons nous assurer que ce marché unique soit bénéfique pour les populations africaines. Le point focal du MUTA au Togo, Nyamalata, présente quelques avantages du projet.
Premièrement, c'est la connectivité. Avant, pour aller de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Centre, il fallait m'entrer par Paris, 6h30, et puis après faire 8h, ça on fait 14h. Maintenant, le même à la bourse, c'est 1h20. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Troisième avantage, nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Il y a une possibilité d'emploi, 300 000 emplois directs.
Selon les statistiques de l'association aérienne africaine AFRA, tous les 15 ans, le trafic aérien va doubler en Afrique. Le MUTA va donc accompagner cette croissance, se réjouit Bertrand Abderrahmane, secrétaire général de l'AFRA.
Je suis très heureux en tant que secrétaire général des compagnies aériennes africaines de voir que les choses avancent. C'est un projet important qui va accompagner en fait le développement du transport aérien en Afrique. AFRA a beaucoup travaillé ces derniers temps au niveau de la sécurité aérienne et de la sûreté parce qu'il n'y a pas de développement du transport aérien sans un niveau de sécurité satisfaisant.
Le marché unique du transport aérien africain, soutient-on, va contribuer à un accroissement de la mobilité des personnes sur le continent, à la réduction des coûts de billets d'avion, à l'augmentation du taux de correspondance et à un gain considérable de temps. Kay Wilson, Lomé, VOA Afrique.
Les États-Unis sont certes le pays le plus riche du monde, mais quelques 45 millions de personnes y vivent sous le seuil de pauvreté. À Buffalo, dans l'État de New York, une ville autrefois très riche, les temps sont durs. Un tiers de la population est considérée comme pauvre. À la suite de la baisse de l'industrialisation et à la disparition d'emplois bien rémunérés. Reportage d'Olga Longinova. Repris ici par Abdourahmandia.
Buffalo, la deuxième plus grande ville de l'État de New York, est de cette partie des États-Unis, durement affectée par le déclin de l'industrialisation. Cela en fait l'une des villes les plus pauvres des États-Unis, nous dit l'historien Mark Goldman.
Something like 75 to 80%.
Entre 75 et 80% des enfants dans nos écoles sont éligibles au repas gratuit, peut-être l'un des taux les plus élevés dans le pays. C'est très élevé à New York aussi, mais c'est un phénomène national.
Goldman, un natif de New York, vit à Buffalo depuis plus de 50 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les hauts et les bas de l'économie locale. Et pourtant, il y a de quoi être fier, dit-il. Lorsque le canal Erie a été ouvert en 1825, il est devenu une voie fluviale de New York au Grand Lac, favorisant le développement économique des États-Unis.
À partir de 1900, Buffalo était devenu un important centre industriel dans le pays. Acier, charbon, chemin de fer, tout ce qui est lié à l'industrie lourde, et ensuite l'automobile.
Mais tout cela a commencé à s'écrouler dans les années 80. Le secteur industriel a commencé à chuter rapidement dans des villes comme Buffalo, Cleveland, Pittsburgh et Detroit. Aujourd'hui, plus de 31% de la population à Buffalo vit en dessous du seuil de pauvreté, soit moins de 24 000 dollars par an pour une famille de 4 personnes. George Arthur est le patron du musée Nash House, une référence dans la communauté afro-américaine de la ville. Il est témoin de la fermeture des usines et de son effet sur les minorités.
Avec les industries qui commençaient à quitter pour aller s'implanter à l'étranger, le taux élevé du chômage touchait les les minorités. Ces populations étaient celles qui étaient les plus touchées.
Le taux de chômage à Buffalo se situe aujourd'hui à 6,4%, donc au-dessus de la moyenne nationale. Mais le photographe James Cavanaugh garde espoir.
Donc on voit certaines photographies comme ces deux grandes aciéries qui étaient à Buffalo pendant longtemps et ont employé des dizaines de milliers de personnes. Et c'est fini tout ça. Certains diront que c'est mauvais, nous avons perdu cette vocation industrielle, mais en même temps, ces sites sont maintenant utilisés pour de l'industrie légère, de la distribution et de la technologie moderne.
Malgré les difficultés, Buffalo se remet peu à peu, donnant espoir et de nouveaux emplois à ses nombreux habitants.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Ariel Smith, non plutôt John Ellison. Merci à Anne Albeson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.